tous. Au lendemain de l'hommage national à Samuel Paty, comment faire face aux attentats? Quelle réponse collective, commémorative? Le sociologue Jérôme Truc pratique une sociologie dite post-traumatique. Il sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, tous à l'opéra, marraine de cette manifestation qui se tiendra partout en France ce week-end. Chanteuse lyrique, artiste, engagée pour son art et sa profession, la mezzo-soprano Karine Deshaies est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Repoussé d'abord du printemps à l'automne, le festival Tous à l'Opéra 14e édition débutera enfin samedi à l'initiative de la Réunion des Opéras de France, un programme imaginé dans le cadre de la Journée mondiale de l'Opéra. Fermeture des salles avancées, bien sûr, mais un programme respecté pour soutenir la scène et continuer à attirer de nouveaux publics, on l'espère. Bonjour Karine Deshaies.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Visite guidée en vrai ou virtuelle, comme à Lyon et à Rennes, des coulisses aux ateliers de costumes, comme à Metz, masterclass et évidemment des concerts, des répétitions, la possibilité aussi, dans certains opéras, de chanter avec le chœur. Ce sera le cas notamment en Lorraine. À vos débuts, vous avez, paraît-il, réalisé un véritable tour de France, chanté sur toutes les scènes. Est-ce que vous avez emporté avec vous un souvenir de chaque lieu où vous êtes passé?
À chaque fois, c'était forcément une découverte par rapport à l'acoustique, par exemple, de la salle, ou à la beauté aussi du bâtiment. Et c'est vrai que à chaque fois que j'arrivais dans une salle, c'était une joie, c'était une découverte. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, je crois que j'ai dû chanter dans exception peut-être dans une salle, mais dans toutes les salles, tous les opéras en France.
Quelle est cette exception?
L'exception, c'est Limoges, vous voyez.
Vous allez recevoir une invitation dans l'heure, j'imagine.
Ah bah c'est sûr. Non, mais il y en a eu, mais après, c'est les emplois du temps. Mais en tout cas, non, on a des bâtiments magnifiques quand même.
Qu'est-ce que c'est une petite salle et une grande salle? Est-ce que ça se mesure forcément à l'espace, ou est-ce qu'il y a d'autres conditions qui entrent en jeu?
Alors, il y a forcément des conditions si, par exemple, la salle a un statut national ou pas. Ça c'est une évidence. Mais non, la taille, il fait vraiment beaucoup, c'est évident. C'est sûr que quand on chante à Bastille, avec justement 2500 places, ça n'est pas la même chose que si on va chanter, par exemple, à l'Opéra Garnier de Monaco, il y en a 500, vous voyez. Donc non, l'espace, ça y fait forcément. Et l'acoustique aussi, la qualité de l'acoustique par rapport à nous, justement, quand on est sur un plateau, ça c'est très important. Après, on se l'approprie aussi, il y a des acoustiques un peu plus difficiles, mais les répétitions sont là pour ça.
La maison qui vous accueille, le toit sous lequel on chante, avec ses fantômes, avec son histoire aussi, hein, parce que les lieux en ont une histoire. Ça compte, on imagine, quand on se produit. Il y a des salles, en dehors de l'acoustique, qui ont des bonnes et d'autres des mauvaises vibrations. Pour vous, Karine Deshaies?
Moi, j'ai toujours senti des bonnes vibrations, mais c'est très intéressant quand vous dites, oui, que c'est des lieux qui ont une histoire, forcément. Quand on arrive à l'Opéra de Paris, notamment... Dans l'Opéra Garnier, on pense à toutes les personnes, voilà, qui sont passées sur le plateau, dans les coulisses, tous les grands chanteurs qu'on a pu admirer. Et c'est vrai que c'est une émotion supplémentaire pour nous.
Parce qu'il y a des studios mythiques pour des chanteurs de pop ou de rock à Londres, à Berlin, à New York, bien sûr. Est-ce qu'il y a la même chose pour des chanteurs lyriques?
Évidemment, moi je me rappelle parfaitement de mes débuts au Festival de Salzbourg, mes débuts au Metropolitan Opera à New York. Ça, c'est des choses qui nous marquent. Non, c'est vrai. En fait, on est des chanteurs de pop aussi. Alors voilà, vous voyez, donc c'est des lieux mythiques, ouais, c'est ça.
L'ombre et la lumière, espace-temps différent. Qu'est-ce qui distingue au fond vraiment, pour vous, Karine Deshaies, la scène des coulisses?
Les coulisses, c'est encore un temps où on se concentre, où on a besoin de se concentrer par rapport justement. Et quand on est sur scène, on est complètement le personnage que l'on doit incarner. Moi, j'arrive vraiment à faire cette différence. Puis par exemple, en coulisses, on a encore le droit de boire un petit peu dans sa bouteille d'eau, alors qu'en scène, voilà, on est complètement dans l'histoire que l'on va défendre.
Mais ce sont deux lieux magiques.
Bien sûr, et puis de toute façon, ils sont liés. La concentration... que l'on a justement en coulisses et là pour nous justement booster après pour franchir le pas et aller sur scène.
Faites-nous visiter l'Opéra Bastille puisque vous l'avez évoqué et après peut-être on pourra aller à celui de Toulouse ou un autre qui vous est cher. Quel serait-il si vous devez choisir un opéra en France?
C'est difficile parce que moi je...
Vous choisissez pas entre vos enfants?
Non, parce que j'ai tellement bons souvenirs dans toutes ces maisons. Mais effectivement, le Capitole de Toulouse, moi c'est une maison que j'aime beaucoup. En plus j'y ai fait énormément de prises de rôle. J'y suis très attachée. L'Opéra de Paris, évidemment, parce que j'ai fait 23 productions, hein, que ce soit entre Bastille et Garnier. Donc, c'est une maison que je connais. Je pense que c'est celle que je connais le plus, en effet. Mmh. Mais j'ai envie de vous citer aussi, par exemple, l'Opéra de Lyon, où j'y ai passé 4 ans en troupe. Donc, forcément, c'est aussi une maison qui m'est chère. Et puis, des opéras, oui, comme Avignon, Bordeaux, Marseille, là où j'ai eu l'occasion de chanter souvent. J'ai aussi envie de citer, par exemple, l'Opéra de Vichy, qui est un lieu mais magnifique, un des rares vraiment opéras dorés, art nouveau, magnifique. Donc en fait, c'est pour ça qu'on incite les gens à franchir la porte, en tout cas s'ils ne connaissent pas encore ces lieux, à venir les découvrir ces lieux comme ils découvriraient aussi des tableaux dans un musée en fait.
Mmh. On y entre souvent par la porte de derrière quand on va s'y produire à l'opéra. Quels sont ces couloirs, ces loges, ces coulisses où vous avez peut-être vibré le plus parce que c'était la première fois, parce que c'était les débuts, parce que c'était un rôle peut-être acquis plus tard auquel vous teniez tout particulièrement.
Dans ces cas-là, les rôles vraiment qui m'ont marqué, je vais vous dire le rôle de Rosine dans le Barbier de Séville. La toute première fois, c'était donc à l'Opéra de Lyon. Le rôle de Cenerentola aussi, de Rossini. Les débuts à Bordeaux et puis effectivement mes débuts à l'Opéra de Paris, à Bastille, quand on est tout seul sur scène, on
c'était
se rend
quoi,
compte de
l'immensité.
C'était Siebel. Non, je vous dis une bêtise. Avant Siebel, j'ai fait Roussalka, pardon. Le rôle du marmiton dans Roussalka. Et c'était en plus aux côtés de René Fleming. C'était vraiment une artiste, moi, que j'admirais. Donc, en fait, c'est ça, c'est de se dire en plus que après, on peut côtoyer les gens qu'on a admirés. Et c'est le rêve qui devient réalité, quoi.
Il y a peut-être des opéras qui ont plus que d'autres d'énormes machineries, des rangées de costumes. Vous, la plus grosse production à laquelle vous ayez participé
L'Opéra de Paris, ça c'est une évidence. Et en plus, il faut se rendre compte que la scène... Il y a carrément 9 fois la scène, en fait, derrière. C'est très impressionnant. C'est un gros carré avec le même dégagement de chaque côté. Et derrière, il y a 6 fois cette place derrière. C'est pour ça qu'à l'Opéra de Paris, on arrive à répéter dans les décors. Ils sont déjà montés et on fait ça, justement, dans ces salles qui sont annexes au plateau.
Carmen ?
L'amour est au fond de vous, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, tant pis pour toi, tant pis pour toi, tant pis pour toi. Hasard, fantaisie, ainsi commence les amours. En voilà pour la vie. Pour 6 mois ou pour 8 jours. Un matin sur la route, on trouve l'amour, il est là. Il vient sans qu'on s'en doute, et sans qu'on s'en doute, il s'en va. Il vous prend vos ennuis, il fait de vous tout ce qu'il veut. C'est un délice heureux, et ça dure ce que ça peut, ce que ça peut, ce que ça peut. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, tant pis pour toi. Tant pis pour toi.
L'amour est enfant de Bohème, qui n'a jamais connu de loi. On ne vous l'apprend pas, extrait de l'album Amoureuse Flamme, avec des airs d'opéra comme ce Carmen de Bizet. Est-ce que j'ai bien lu que vous avez interprété la première fois en 2016? Pourquoi non?
Pour le rôle de Carmen?
Oui.
Non, la première fois, c'était justement à l'Opéra Bastille. J'ai fait mes débuts en 2012, décembre 2012.
Il y a
2016, 8 ans. Voilà, c'était à Avignon. C'était ma reprise, vous voyez.
Et il y a 8 ans, ça paraît tard quand même aussi dans votre parcours.
Non, parce que justement, c'est un rôle, moi je trouve, Carmen, où on doit avoir une maturité, peut-être même plus théâtrale, vous voyez, que vocale. Et moi, j'ai trouvé justement, et en plus de faire cette création dans cette grande salle qui est Bastille, je pense que j'aurais pas pu la faire avant, vous voyez. Donc moi, je pense que le timing était bon de le faire justement à l'approche de la quarantaine.
C'est un art de la patience aussi.
Bien sûr, parce qu'évidemment, dans ces cas-là, on a tous envie de réaliser ses rêves tout de suite, de chanter tous les rôles tout de suite, et il faut vraiment savoir dire non. Ça, c'est toujours la chose la plus délicate. Beaucoup de directeurs veulent nous faire plaisir en nous offrant des rôles, mais finalement, des fois, on n'a pas encore l'âge, la voix pour ça, ce qui pourra se faire peut-être 5 ans, 10 ans après. Hein. Mais il faut faire attention, effectivement, est-ce que c'est trop aigu, trop grave, trop large. Donc oui, c'est un art de la patience. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la voix évolue en plus. Avec l'âge, j'ai envie de vous dire, c'est comme le vin, ça se bonifie. Et donc, ça nous permet après également d'aborder d'autres rôles, donc c'est extraordinaire.
Et dire non dans le milieu, c'est pas mal perçu ?
Non, en tout cas, moi, ça n'a jamais été le cas. Et à chaque fois qu'on a pris ce genre de décision, c'était d'un commun accord avec mon professeur de chant et mon agent. Mmh. C'est un triangle. Et non, au contraire, il vaut mieux être prudent, faire attention, plutôt que de payer après une prise de rôle qui n'était pas pour soi et de mettre 2 ans ou 3 ans à s'en remettre. Enfin, c'est ça, en fait.
Aujourd'hui, vous en êtes où de cette maturité dans la voix ? Il y a encore des rôles que vous refusez, que vous mettez de côté, sur le feu, que vous laissez mitonner et que vous prendrez plus tard ? Ou est-ce que vous avez pu prendre possession de l'ensemble du répertoire qui vous est dévolu comme mezzo-soprano, en tout cas ?
En tout cas, c'est vrai que déjà, le répertoire s'est beaucoup étoffé. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis j'ai beaucoup de chance parce que je peux découvrir justement, même par exemple dans un même opéra, des rôles différents. Je pense toujours à l'exemple de Don Giovanni où j'ai fait pendant des années Zerline et ensuite le rôle d'Elvire. Et là, par exemple, en avril prochain au Capitole de Toulouse, j'aborderai pour la première fois le rôle de la comtesse après avoir fait effectivement pendant une quinzaine d'années le rôle de chérubin. Donc c'est vrai que il y a une évolution qui se fait et on découvre en plus l'opéra avec un autre regard, avec un autre personnage. Donc moi, je trouve ça c'est une chance, voilà.
On va écouter les mots de l'une de vos anciennes professeurs. Elle vous a peut-être appris justement cela, que la voix continue à se développer malgré tout. C'est Régine Crespin.
J'ai pris des leçons de chant avec un professeur donc à Nîmes pendant 1 an et demi à peu près. Et au début, ce professeur, évidemment, n'avait pas l'air très emballé. M'a dit « Mon Dieu, je veux bien vous prendre 3 mois à l'essai, mais enfin, je ne pense pas que vous puissiez faire une carrière ». Malgré tout, ma voix s'est développée petit à petit, j'ai continué à travailler. Et en 1946, je me suis présentée au concours organisé par le journal Opéra, les Belles Voix de France. Et je suis arrivée aux éliminatoires finales à Paris, où j'ai obtenu un premier prix, avec le grand air de Ségur.
Peut-être qu'elle n'était pas du tout ce que sa voix dégage, Régine Crespin. Mais là, on entend de la tenue, de l'obstination, du respect de soi et du respect de sa voix. Est-ce que c'est tout ça qu'elle vous a transmis, Karine Deshaies ?
Oui, bien sûr, l'exigence du travail, ça, c'était vraiment ça. Dans la masterclass que j'ai eu la chance de faire avec elle, c'est la transmission qu'elle nous a donnée, le respect du texte aussi. C'est-à-dire la prononciation, mais pas la surarticulation. Et puis la générosité aussi. Enfin, c'était tout ça. C'est même très émouvant d'entendre de nouveau sa voix parler.
Mais elle est décédée il y a 13 ans.
Hein. Ouais, 2007 exactement. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, c'était une chanteuse magnifique. Évidemment, l'artiste, on le sait. Et puis voilà, humainement, c'était quelqu'un de très généreux et qui portait vraiment les gens, qui les encourageait. Et on l'entend d'ailleurs, la bienveillance aussi dans sa voix.
C'était un enregistrement de 56 que l'on vient d'entendre. Elle évoquait ses représentations dans les années 40. C'est presque une autre époque. Et depuis, on peut quand même dire que l'opéra s'est popularisé, s'est internationalisé aussi dans vos parcours, dans vos carrières d'artistes lyriques. Est-ce que vous pensez ou vous trouvez que depuis, l'état d'esprit de la jeune génération de chanteurs a beaucoup changé? En bien comme en mal d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas.
Non, c'est vrai. On a plus cette image de diva, hein, faut le dire. Régine Crespin, c'est quand même une époque où les chanteuses lyriques faisaient la une de Paris Match, faut pas l'oublier.
Moi, je n'avais jamais fait la une.
Par exemple, nous, les chanteurs lyriques, on fait pas la une de Paris Match, vous voyez. Donc c'était cette grande époque. On prêtait des vrais bijoux, voilà. Il y avait la fourrure, la capeline, le petit chien. Non, mais c'est. Et puis nous, on va en répétition en sac à dos et en métro, vous voyez. Donc c'est quand même une autre époque. Ça a vraiment évolué. Et après, évidemment, sur scène, c'est la magie. On a quand même des parures et on joue des personnages extraordinaires. Mais c'est vrai que c'est une époque où, oui, les gens se côtoyaient le Gotha, le grand monde. Quand on voit aussi toutes les photos de la Callas avec les princes, les reines, les gens aussi du showbiz, du cinéma. C'est vrai que maintenant, il y a peut-être moins d'interactivité par rapport à la musique classique. Mais en tout cas, on va comme tout le monde en métro ou alors à pied au travail.
Moins de divas, mais l'opéra a quand même ses stars. Hein,
oui, mais très peu.
Que les scènes s'arrachent pour certaines représentations, pour des festivals. Et vous commencez, vous, à avoir aussi un nom, même si vous prenez encore le métro. Est-ce que c'est un milieu que vous diriez très compétitif aujourd'hui?
Pas plus qu'avant, ça c'est une évidence. La compétition, elle est forcément au départ quand on fait aussi des concours, parce que là on se mesure aux autres. Mais en tout cas, le comportement, voyez, de diva n'a plus lieu d'être maintenant. Même les gens dont vous parlez, qui ont ce statut de diva, c'est des gens très simples, quoi. Et ils ne changent pas, justement, avec cette notoriété. C'est ça que je voulais dire, en fait.
Alors, on pourra découvrir les coulisses des opéras en participant à cette manifestation Festival Tous à l'Opéra, 14e édition, qui aura lieu ce week-end. On peut aussi se replonger dans 2-3 films marquants sur l'opéra, dont celui de Frédéric Wiseman ou encore celui de Jean-Stéphane Bron. L'opéra, ce film nous plongeait dans les répétitions de deux grands opéras, les maîtres chanteurs de Nuremberg de Wagner et le Moïse et Aaron de Schoenberg. Il nous amenait aussi des répétitions à l'administration, c'est-à-dire vraiment à la vie cachée d'un opéra, en l'espèce celui de l'Opéra de Paris. Et ce jour-là, un soliste est malade, à quelques jours, quelques heures de la représentation, un risque bien connu des programmateurs de salles et d'opéra. Et le festival de coup de fil va s'accélérer pour essayer de lui trouver un remplaçant au pied levé, c'est-à-dire un chanteur comme lui, avec la même tessiture, qui connaisse le rôle et qui puisse être à Paris dans les 48 heures.
You're joking, I mean it's in 2 days is the performance. It's Easter tomorrow, whom am I gonna find at that time? And when did this happen? When did you feel feeling like that? Because the other day you sang like a god. I'm a little bit surprised. I mean, I understand, but yes. And what did he say? Look, Gerald, you are a prophy. You know better than me if you can or if you cannot do the show. And the last what I want is anybody to destroy his voice. You understand the situation is now who can sing sax and who can sing that. It's Easter time.
We might have a possible cancellation here. We have Finley, who's, as you know, doing sax with us for Meistersinger, and he's not well at all. Is Bryn anywhere in Europe at the moment?
He has told me that normally he's singing classical with Barry.
Oh, he's in America.
Okay. Frohle, she checked, but she sings, it's not free, and Koch is singing Parsifal with Barenboim.
Voilà, l'extrait est en anglais parce qu'aujourd'hui ça se passe comme ça, les carrières sont internationales. Tel chanteur qu'on contacte est aux États-Unis à ce moment-là pour une représentation de tel opéra, tel autre est au Japon, le troisième est en Autriche. Les directeurs de casting s'arrachent les cheveux. Qui peut chanter ça? Voilà, en gros, ce qui se jouait dans cet extrait et qui nous révèle l'incroyable machine qu'est un opéra derrière, en coulisses, qu'on ne peut pas imaginer quand on est tranquillement assis dans un fauteuil à regarder ce qui se joue sur la scène. Pour une artiste lyrique comme vous, Karine Dehaye, sollicitée pour se produire dans le monde entier, bookée, engagée, parfois des mois, des années à l'avance, cette épidémie, c'est un renversement d'agenda inédit, on l'imagine, qui va, à votre avis, changer les manières de faire sur la durée.
Ça, c'est sûr que ça a été un chamboulement et un choc pour tout le monde, parce qu'on s'est tous arrêtés au même moment, quand on était en répétition ou sur scène. Après, on va voir pour l'avenir. Là, déjà, ce qui change, on se rend compte avec l'histoire aussi du couvre-feu, c'est les horaires de spectacle qui sont remontés pour que les gens soient rentrés à temps chez eux. Peut-être aussi le fait qu'on fera plus tard moins de voyages aussi, qu'on enchaînera peut-être moins les productions ou moins les concerts. Mais on est tous, en tout cas. On voit que le milieu s'est très très vite adapté, donc ça c'est plutôt quelque chose de positif, et pour les conditions sanitaires et pour effectivement des changements de programme. Par exemple, au lieu de faire un opéra en entier en version concert, maintenant comme on nous demande de ne plus avoir d'entracte, on rétrécit l'ouvrage ou alors on le transforme et on fait des concerts pas plus d'1h30, 1h40. Et comme ça, les gens ne se croisent pas pendant l'entracte. Et voilà, en fait, on transforme un peu les programmations.
Et vous? Vous chantez avec le masque? Vous êtes testé tous les matins? Comment ça se passe?
Non, alors moi, personnellement, j'ai fait 2 fois le test, déjà, depuis mi-juillet. On m'a pris la température, par exemple, quand j'étais en Italie, au festival de Pesaro, on nous prenait la température à chaque répétition. Il y a des endroits où on nous demande de faire le test. Maintenant, de plus en plus, on sait qu'il y a un contrôle... j'allais dire continue, en tout cas quand les gens répètent ensemble sur scène. Moi, jusqu'à présent, je n'ai fait que des concerts, hein. Je n'ai pas fait de représentation scénique, donc c'est encore autre chose.
Et je voyais un concert récemment, les instrumentistes accordent, tous les musiciens étaient masqués, ceux avant ne l'étaient pas, évidemment. Mmh. Au piano, c'est un entre-deux, et le chef d'orchestre l'était lui, ce qui veut dire aussi quand même une autre relation qui va se mettre en place pour les chanteurs avec l'orchestre.
Bien sûr, mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, j'ai encore fait un concert à Monaco dimanche. Le chef d'orchestre n'avait pas le masque. Parmi les cordes, certains avaient le masque, d'autres pas. Bah, les vents n'ont pas le choix, on est bien obligé de l'enlever aussi. Donc oui, en fait, c'est ça, on s'adapte.
Allez, pas de deux. Et vous voilà en duo Karine Dehaye avec Delphine Edan. Vous serez toutes les deux d'ailleurs en concert à Montélimar le 6 novembre pour défendre ce répertoire. Avec Brahms 2 Mezzo, sinon rien, c'est le titre de cet album sorti chez Clart il y a...
Juste un mois.
Un mois, simplement, c'était à la rentrée, le 18 septembre dernier. C'est intéressant parce qu'on entend ici deux mezzo-sopranos et pourtant des voix quand même assez différentes, des timbres, des tessitures qui sont pas exactement les mêmes. Et vous me disiez, on se connaît en plus depuis longtemps et depuis le temps, vous montez vers les aigus, voilà, et elle vers les graves.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, avec Delphine, on chantait exactement les mêmes rôles. Rosine, Cenerentola, Sesto dans la Clémence de Titus de Mozart. Et effectivement, avec l'âge, voilà, moi je vais vers l'aigu et Delphine descend dans le grave. Donc ce qui nous permet justement en plus d'avoir un répertoire plus large pour tous ces concerts de leaders et de mélodies en duo. Et c'est vrai que c'est une évolution qui n'est pas inédite. Hein. Il y a plein de chanteuses qui ont commencé mezzo-soprano et qui ont pu aborder des rôles de soprano. Et puis la même chose des voix aussi qui ont été vers le grave. Donc.
Oui, et un répertoire mezzo-soprano à l'honneur dans cet album, un répertoire reconnu un peu plus tardivement que d'autres dans l'histoire du lyrique, mais un répertoire aujourd'hui qui vous semble assez éclectique, finalement qui ne vous limite plus, vous diriez, de ce statut un peu d'entre-deux. Les mezzo-soprano ont pu, ou ce répertoire, acquérir un statut vraiment à part entière.
Oui, et puis c'est vrai que de faire ce genre de concert, moi je l'ai toujours dit, j'adore évidemment incarner un rôle hein, en scène à l'opéra, mais j'aime beaucoup aussi faire de la musique de chambre, donc que ce soit voilà avec par exemple avec Delphine et un piano, mais on peut faire aussi beaucoup de musique de chambre avec des quatuors à cordes, d'autres instruments, ça ouvre aussi un répertoire et je trouve que ça nous nourrit aussi pour après ensuite incarner des rôles en scène.
Et vous avez collaboré notamment avec l'ensemble Contraste, puis le quatuor Debussy que vous avez rejoint l'an passé. Il y a un autre album qui paraît à la fin du mois, Massenet, Berlioz, Liszt, Duparc, Alexandre Dumas et la musique à l'occasion des 150 ans du monsieur. Vous traduirez ses émotions en chant, en musique également. Vous serez dans le cadre de Tous à l'Opéra, le festival qui aura lieu ce week-end partout en France. Vous, à Paris, à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille, de 16h à 18h ce samedi. Et puis le lendemain, le dimanche, à l'Opéra Comique, mêmes horaires, pour deux masterclass, pour communiquer votre passion, votre envie, et à inviter une nouvelle génération de chanteurs en herbe à passer le cap.
Exactement, et en plus cette année, c'est une belle association qui est faite avec Tous à l'Opéra et le Conservatoire National Supérieur de Musique, parce qu'il faut savoir que les étudiants qui ont passé leur master au mois de juin l'ont passé en contrôle continu, vous voyez, comme les bacheliers, et n'ont pas eu la chance de se produire en public, donc là, ils pourront chanter en public.
Voilà, marraine, Karine Dehaye, comme dans un conte de fées, merci à vous d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.